quartier de vie. Une émission de résonance sonore proposée par Agnès Gontier. Écoutons le son mystère. Alors, une idée ? Activité relativement silencieuse, il s'agit du roulement d'une presse manuelle. Allons à la rencontre de Cyril Amouroux, artiste et enseignant.
Là, on est au cœur des castors, on est au cœur des maisons qui ont été construites par les ouvriers de chez la Técoère. C'est un quartier qui date des années 60. Elles ont été construites collectivement. Ils ont tous participé à l'élaboration du lot de la centaine de maisons qui existent à l'heure actuelle, qui sont des maisons mitoyennes. Et ensuite, ils les ont tirées au sort. On dit qu'on habite à Bagatelle, alors qu'on travaille rue Ozène. Les gens vous regardent avec un air surpris en disant « C'est pas possible, t'habites pas à Bagatelle. » Ah ben si, si, j'habite à Bagatelle. Et j'y suis bien, ouais, bien entendu. On est juste au-dessous du couloir aérien de Toulouse, hein, c'est-à-dire le couloir par lequel descendent les avions sur l'aéroport de Blagnac ou celui par lequel il décolle. Voilà. Maintenant, on subit moins le bruit que sur les barres, où les vitres vibrent, où l'ensemble de l'élément architectural est impacté par le son. Alors, quand on est venu s'installer ici, à 4 ou 5 ans, mon fils ne cessait de lever la tête pour regarder les avions passer. Il avait 6 ans et très rapidement, il s'est aperçu que ce n'était pas le même à chaque fois. Ça m'a donné l'idée de faire des séries d'images dessus. Non pas juste pour représenter des avions, pour devenir un peintre officiel de l'aviation et pour en dégager les différents modèles, mais plutôt pour exprimer le passage de l'avion, l'avion en mouvement et l'avion qui fait du bruit au fur et à mesure qu'il approche et le bruit qui s'atténue au fur et à mesure qu'il repart en réalité. Donc ça, je trouvais ça assez fascinant, c'est-à-dire non seulement l'image, mais aussi, on va dire, son impact sonore sur ma façon de vivre. Ça a beaucoup plu à un autre artiste qui habite dans le quartier, qui s'appelle Benoît Auclair. On a envisagé cette série d'images pour exprimer l'idée d'un couloir. Elles étaient en noir et blanc au départ. On a fait une centaine d'épreuves en évolution, c'est-à-dire où chaque tirage, chaque état de la gravure venait se nourrir de quelques éléments graphiques supplémentaires de représenter un avion qui apparaissait, qui devenait de plus en plus net, de plus en plus lisible et qui, au fur et à mesure de son passage, devenait quasiment quelque chose d'abstrait en devenant du bruit. Donc l'image part du noir absolu. Et elle arrive au blanc absolu, en décrivant cette idée aussi de désagrégation, on va dire, graphique, qui exprimait le son en même temps.
À 62 ans, dont 17 passés, la tête de l'assureur Henri de Castries s'explique dans une lettre adressée aux salariés. Il est naturel, dit-il, qu'une nouvelle équipe pense et porte le nouveau plan stratégique qui doit être présenté.
Voilà, l'espace de travail. Donc, que je fais, c'est je coupe du papier à, on va dire, la dimension de mes calages, avec des formats de plaques qui sont quasi identiques. Donc dans la gravure, déjà, où il y a un rapport au papier qui est important, il faut aimer le papier, il faut, je sais pas. J'ai commencé dans les années 90, quand j'étais aux Beaux-Arts. Très rapidement, la gravure était devenue, pour moi, le déroulement de projets et de processus qui s'inscrivaient dans le temps, dans l'espace, hein, et qui venait véritablement exprimer l'idée d'une transformation de l'image. Ce qui me plaisait dans le fait de travailler sur une matrice de cuivre, c'était que le matériau est un matériau solide, et que l'on pouvait faire une multitude d'interventions. Dans bien des cas, la matière n'était érodée qu'en surface pour faire une simple image comme Rembrandt pouvait la faire. C'est-à-dire qu'avec une petite intervention à l'eau forte sur une plaque, on obtient une image en surface de la plaque, mais les graveurs, en général, ne s'occupaient pas de la profondeur du matériau, de sa résistance dans le temps, de ce qu'elle pouvait exprimer une fois percée ou trouée ou dégradée. Et mon idée, par contre, c'était donc de multiplier, par exemple, pour le portrait, plusieurs fois la même personne sur la même matrice pour pouvoir avoir le contenu de chaque séance de pose qui vient s'inscrire dans la matrice. C'est-à-dire, ce qui me plaisait avec ce processus de travail, c'est que la plaque de cuivre ou de zinc est une mémoire qui enregistre toutes les actions dessinées sur la plaque. C'est-à-dire que dans mon cas, l'art ne vaut qu'en tant qu'expérience et la technique est au service d'une idée, et pas le contraire. Alors en général, je fais plusieurs plaques à la fois. Quand je les mets dans l'encre, j'encre plusieurs plaques. Ça, je fais plusieurs tirages. La manipulation permet d'être optimisée, quoi. Hein. Donc je fais tremper des séries de papier et je travaille sur des séries de plaques. Là, c'est un peu particulier parce que je ne fais pas des projets de gravure tels que j'ai pu les faire sur mes dernières expositions, comme Presque Rien, où j'ai fait 160 états sur une plaque de zinc, où c'est une pointe sèche qui évolue d'un état à un autre, et où tous les 16 états, je change de sujet. Et les 16 états constituent une petite histoire en soi. Là, on est sur un projet où chaque plaque est conçue comme un petit bijou. La plaque, la matrice, n'est pas là pour faire forcément, dans mon cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tirages, mais plutôt d'en faire des œuvres en soi. Je mets des gants. Pareil, la plaque. Alors, je travaille sur un projet qui est transversal. À la fois, l'élaboration d'un couteau, qui serait le couteau du pèlerin Saint-Jacques de Compostelle, qui va recevoir sur sa lame une gravure à l'effigie du curieux de Conques, et qui s'appellera Le Curieux. Et par rapport à ça, l'élaboration d'une galerie de gravures, de recherches pour cette lame au départ. Donc, j'ai établi les premières plaques pour réaliser des curieux anonymes, à l'image de ceux qui sont sur le tympan de Conques, où ce petit personnage qui est le plus petit élément sculpté représente un petit peu la signature des maîtres sculpteurs et bâtisseurs de l'époque. Mais au-delà de ça, j'ai eu envie de leur faire sortir le bout du nez, leur donner, on va dire, une identité, de jouer avec des émotions, des trucs comme ça. Et très rapidement aussi, j'ai eu envie de leur donner une identité propre, très marquée. Charles Holmes, avec sa loupe, il exprime la curiosité absolue, quoi. Donc rapprocher ce curieux des curieux naissables de l'histoire de la littérature ou de l'art, tout simplement, et de commencer à faire des références. Et d'étendre ma galerie, non seulement à des curieux anonymes, mais aussi à des curieux qui soient reconnaissables et avec lesquels je m'amuse à établir une galerie de portraits dans laquelle le spectateur ou le regardeur peut, à un moment donné, dire « Tiens, celui-là, je le connais, il ressemble à un tel. » Et donner l'explication après coup, et puis pourquoi pas. Je la mets sur le plateau de la presse. Bon, faut dire que c'est un métier qui a disparu réellement. Je veux dire, aujourd'hui, le moyen de reproduction et de diffusion des images, c'est plutôt Internet. Donc voilà, le support sur papier, tout ce savoir-faire qui est quand même assimilé à l'artisanat d'art. Hein. C'est un travail qui est relativement silencieux au départ. C'est même assez zen comme pratique, je dirais. Parce que chaque étape est très très méditative, quoi. De ce rapport. Voilà, faut pas tomber la plaque au sol, faut faire des gestes, voilà. Faut caler, faut que son papier soit bien calé. Là, les champs sont. Tu vois, là, il y a quelques imperfections sur les bords. Il faudra que je reprenne à la lime, que je retravaille un petit peu quand je ferai mes 16 états de cette plaque-là. À un moment donné, c'est la matière qui vous a choisi, c'est le support qui vous a choisi. Vous êtes fait pour ça, je ne savais pas pourquoi.
Merci à Cyril Amouroux. Quartier de vie, une émission de Résonance Sonore. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.